petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Deux événements ont particulièrement marqué le mois d'octobre. En plus, bien sûr, de la terrible pandémie. L'assassinat islamiste de ce professeur d'histoire, éducateur de la liberté d'expression, c'était le 16 octobre. Tandis que le 5 octobre, le pape François signait à Assise son encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité universelle. Comment comprendre à la fois un tel acte de haine et un tel appel à l'amour fraternel? L'urgence est de stopper par la force ce courant islamiste radical. Mais nous ne résoudrons pas ainsi à long terme la question de la paix et de la fraternité. Il y a pourtant un étonnant précédent historique de ce télescopage inouï de la haine et de la fraternité. C'est le très périlleux voyage de saint François d'Assise pour rencontrer en pleine croisade le sultan d'Égypte et dialoguer sur la fraternité. C'était en 1219. Le pape a pris le nom de François en référence justement à saint François d'Assise, honoré pour sa défense des pauvres, pour le respect de la nature et pour le dialogue interreligieux. 800 ans pile après cette mémorable rencontre, François, en 2019, a co-signé avec l'imam de la grande mosquée Al-Azhar du Caire un long texte sur la fraternité. Pourtant, le terrorisme islamiste poursuivait ses actes barbares. L'imam de cette grande mosquée a un incontestable prestige dans le monde sunnite, même si aujourd'hui il est contesté par les plus radicaux. Et l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, fait abondamment référence à cette co-signature. Quant à l'enseignement social chrétien, on ne peut que se réjouir de cette dernière encyclique sociale qui renouvelle les valeurs de dignité sacrée de la personne humaine, de bien commun, de subsidiarité, de dialogue, de destination universelle des biens et, bien sûr, de la fraternité. Cette fraternité fait son apparition laïque sous la Deuxième République, celle de 1848. Elle s'intègre à la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Et pourtant, ces trois valeurs républicaines ont du mal à cohabiter en pratique. Du moins, les deux premières, liberté, égalité. En effet, la deuxième moitié du XXe siècle fera éclater la contradiction politique entre liberté et égalité avec, tout le monde le sait, la confrontation de deux civilisations, celle libérale dominée par les USA et celle égalitaire ou égalitariste du bloc communiste. Vouloir la liberté, c'est prendre le risque que le plus fort l'emporte et domine le faible. D'où les inégalités sociales et la loi de la jungle. A contrario, vouloir l'égalité, c'est imposer des limites à la liberté pour contrer les plus forts. Et c'est le début de la dictature. Il semble ne pas y avoir de solution idéale, car même un juste milieu brimerait et la liberté et l'égalité. Ou plutôt, si, il y a une conciliation possible de la liberté et de l'égalité. C'est la fraternité. La fraternité est le libre consentement de chacun, liberté, à l'égalité de tous, égalité. La fraternité est le libre consentement de chacun à l'égalité de tous. Se sentir et se vouloir frère infuse le consentement de chacun à l'égalité de tous. C'est bien la bonne conduite, mais attention, la fraternité ne se légifère pas, elle procède de l'esprit. Le pape cite et approuve avec circonspection la devise républicaine, mais sans mentionner qu'elle est d'origine française. Il le fait exprès, pas pour vexer les Français, mais parce que son but est, entre autres, de parvenir à dissocier le christianisme et la domination coloniale et la domination libérale des premiers grands pays chrétiens, dont la France. Bref, dissocier le christianisme et ce qu'on a appelé l'impérialisme. L'Occident chrétien est considéré par le reste de l'humanité, Asie, Afrique, etc., comme le camp des riches et des exploiteurs, tandis que les chrétiens eux-mêmes du monde occidental, Union européenne et Amérique du Nord, semblent plus ou moins se satisfaire de leur histoire. Alors, c'est peut-être un lourd handicap à l'évangélisation, et ça sera peut-être la quadrature du cercle que d'y remédier. Le passé et le présent de l'Occident est trop associé au capitalisme. Le paragraphe 51 de l'encyclique conteste, je cite, « ces pays économiquement prospères qui se présentent comme des modèles culturels pour ceux qui sont moins développés, au lieu de vrai, pour que chaque pays croisse à sa propre manière. » Fin de citation. En 2019, dans sa lettre « Amazonie chérie », François tentait de montrer que l'Amazonie pouvait prendre son essor sans abandonner des particularités, pas toutes les particularités, mais des particularités de sa culture traditionnelle. Or, la mondialisation est en fait une occidentalisation du monde, voire une américanisation. Pour pouvoir progresser, la Chine communiste est entrée en capitalisme. Et Shanghai ressemble plus à une ville de Californie qu'à la culture traditionnelle des mandarins. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le capitalisme a de gros défauts et en particulier l'inégalité sociale jusqu'à l'exclusion. Mais il n'en reste pas moins vrai que la carte géographique des pays prospères, des pays prospères où les pauvres sont moins pauvres qu'ailleurs, eh bien cette carte géographique des pays prospères est exactement la même carte géographique que celle des pays qui bénéficient de la démocratie, même imparfaite. Ces pays vivent en système néolibéral. Et ce sont des pays chrétiens, les USA étant le pays au plus fort pourcentage de chrétiens pratiquants dans le monde. Mais sommes-nous vraiment chrétiens? Sommes-nous fidèles aux valeurs évangéliques et en particulier à la recherche du bien commun? Notre influence catholique est-elle en progression? Certainement pas, et là le pape a raison. Le matérialisme consumériste l'emporte en Occident. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé, certes mal éduqué, mais prospère, avec l'eau du bain polluée par les fautes sociales graves du système.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.